Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC la radio et RMC Story la télé, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la Russie. Voilà ce qu'affirme ce matin Emmanuel Macron, qui confirme une évolution à venir du service national. On va tout vous détailler. Les cœurs artificiels Karmat vont-ils continuer de battre? Le fabricant français est en redressement judiciaire. Son sort sera examiné aujourd'hui. Et un très gros colis chinois ce matin. Les deux célèbres pandas du zoo de Beauval quittent la France. Ils repartent en Chine. Vous verrez que c'est un événement diplomatique et même sécuritaire.
Nous aurions tort d'être faibles face à la Russie. Voilà les mots d'Emmanuel Macron ce matin.
Dans une interview à la presse que vous avez écoutée ce matin, Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, le président dit qu'on doit se protéger face à cette menace.
Oui, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la Russie, alerte le président de la République. On est monté d'un cran dans la conflictualité, dit-il Emmanuel Macron, qui pointe une posture agressive de la Russie, qui a accru sa défense, qui met plus d'un tiers de son budget dans son armée, qui produit des sous-marins, des tanks, des missiles, sans compter la guerre de l'information et les manœuvres de déstabilisation qui visent l'Europe. Nous aurions tort d'être faibles face à cette menace, répète Emmanuel Macron. Nous sommes à portée, dit-il, de ses équipements et de ses missiles balistiques.
Alors la réponse à cette menace, c'est le retour d'un service militaire. Ça se précise sous une nouvelle formule.
Oui, il confirme qu'il annoncera d'ici quelques jours un service national remanié. Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-nation, plaide le chef de l'État. Et face à cette menace hybride de la Russie, il estime important qu'un maximum de Français puissent comprendre ce que sont les armées, comment ça marche, qu'ils puissent participer aussi à la réserve, être réserviste dans l'armée. Mais il veut mettre fin tout de suite à une idée, et il le dit de façon assez insistante. Il faut réfuter l'idée qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine, insiste Emmanuel Macron. Ça n'est pas du tout le sens de cette affaire, dit Emmanuel Macron, qui sera dans l'Isère, dans une caserne, jeudi, très probablement, pour préciser ses annonces.
Et je précise que l'heure n'est pas du tout à la paix ce matin entre l'Ukraine et la Russie, qui s'accusent mutuellement d'attaques durant la nuit, faisant au moins 3 morts côté russe, 6 côté ukrainien. La capitale Kiev, notamment, qui a été visée. Emmanuel Macron, à l'instant, qui vient aussi de dire qu'il a bon espoir que les forces parlementaires trouvent un compromis sur le budget. Vous savez qu'on est en pleine tractation en ce moment. Il sera d'ailleurs à nouveau question aujourd'hui de la réforme des retraites. Les députés avaient voté sa suspension durant l'examen du budget de la Sécu. Eh bien, le texte arrive chez les sénateurs de droite qui devraient sans aucun doute supprimer cette suspension dans la journée. Il sera question, tiens, également aujourd'hui de l'audiovisuel public. Critiqué par les uns, défendu par les autres, une commission d'enquête parlementaire à l'initiative du groupe UDR, qui est un allié du RN, va se pencher pendant les 4 prochains mois sur, je cite, « la neutralité, le fonctionnement et le financement » de France Télévisions et de Radio France, notamment Thomas Becker du service politique à RMC. Une cinquantaine d'auditions sont prévues et les principales têtes d'affiche de l'audiovisuel public vont y passer.
La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, celle de Radio France, Sybille Veil, des présentateurs et producteurs, Léa Salamé, Élise Lucet, Nagui, le rapporteur Charles Alloncle du groupe UDR allié du RN, affûte ces questions depuis plusieurs semaines.
L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est une somme considérable, donc c'est la moindre des choses de faire toute la transparence sur la bonne gestion de ces fonds publics et le respect aussi des obligations liées au service public de l'audiovisuel, notamment le premier étant la neutralité.
Sauf que beaucoup de députés comme l'écologiste Sophie Taillé Pollion reproche déjà à la commission d'être partisane.
Le vrai sujet pour le rapporteur, qui est de faire le procès du service public audiovisuel parce qu'il serait un repère de gauchiste.
Pour elle, ce n'est pas le rôle des députés de juger la neutralité.
C'est à l'ARCOM de le faire et nous, au contraire, on est complètement en dehors de nos missions.
Le président de la commission, Jérémy Patrilletus, garant de la tenue des débats, de l'agenda et des convocations, prévient qu'il ne tolérera aucune forme de cirque médiatique.
Moi, je vais rester optimiste, en tout cas, je vais être vigilant. Les députés ne sont pas des juges, on n'est pas des juges.
Il s'attend à ce que la commission soit très suivie sur les réseaux sociaux. Elle durera jusqu'en mars prochain.
Il est 8h04 sur RMC et c'est l'opération de la dernière chance pour Karmat.
Oui, le fabricant français de cœurs artificiels qui est en redressement judiciaire. Le tribunal des affaires économiques de Versailles va se prononcer aujourd'hui sur l'offre de reprise qui a été formulée par l'actuel président du conseil d'administration. La première offre a été rejetée, c'est donc la deuxième, Inès Zegloul.
Nouvelle audience,
ce sera la bonne.
Et nouvel espoir, peut-être, pour nos services de cardiologie, sourit la docteur Anne-Céline Martin. Dans les blocs opératoires de l'hôpital parisien Georges Pompidou, où elle travaille, ce sont au total 9 prothèses artificielles Carmat qui ont été implantées, 9 cœurs complets et autant de patients sauvés.
Ces patients-là, ils ont l'ensemble du cœur qui est malade. Ils ont besoin d'une solution immédiate. On est parfois au jour près, à la minute près, à la semaine près. Aujourd'hui, la seule option qui a les si bons résultats, qui permet de retourner à la maison, c'est ce cœur artificiel total Carmat.
Sans cette prothèse, restent des alternatives, dit la spécialiste, mais moins performantes, avec des risques d'AVC, de caillots, des malades condamnés à vivre en chambre hospitalière jusqu'à leur greffe.
C'est du sauvetage, c'est plus de la médecine de pointe.
De son côté, l'entreprise Carmat promet, en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, le suivi des patients sera assuré. Pour l'heure, la cardiologue ne veut pas y songer, invoquant, dit-elle, son optimisme légendaire.
C'est un peu l'opération de la dernière chance aussi en football pour Marseille qui va jouer ce soir son 5e match de Ligue des Champions 21h sur RMC au Vélodrome contre Newcastle. Il n'y aura rien de définitif en cas de défaite, mais quand même, à Clément Brossard, c'est tout le paradoxe cette saison pour Marseille qui marche fort en championnat mais qui n'y arrive pas en Ligue des Champions.
Oui, car la dernière victoire de Marseille 5-1 à Nice le week-end dernier n'a pas rassuré l'entraîneur Roberto De Zerbi.
Je dis toujours ce que je pense et je crois que cette équipe doit mieux jouer. Je suis persuadé que si nous jouons comme à Nice, nous remporterons très peu de victoires de cette ampleur.
Mais un succès reste un succès. Et le milieu de terrain, Angel Gomez, espère surfer sur la belle série en cours.
Les deux derniers matchs ont été positifs pour l'équipe et pour la confiance. Ça a été une période difficile, avec les blessures et les circonstances particulières. Mais nous essayons toujours de rester positifs. Et c'est ce que nous allons faire pour tous les matchs à venir.
Avec pour objectif de redresser la barre. Car si les dauphins du PSG, l'OM n'a remporté qu'un seul de ses 4 matchs de Ligue des Champions. Ancien attaquant marseillais et consultant RMC, Christophe Dugarry en attend plus.
Quand tu as un budget de 260 millions qui te permet d'exister dans cette Ligue des Champions, je sais très bien qu'ils ne vont pas la gagner, tu dois avoir une forme d'exigence. Est-ce que l'OM n'est pas capable de battre Newcastle ? Moi, je dis si !
Au risque, en cas de nouvel échec, de compromettre ses chances de qualification pour la phase éliminatoire de Ligue des Champions.
Bon, et comme promis ce matin, des nouvelles des deux pandas, célèbres pandas du zoo de Beauval. Pourquoi ? Parce que leur histoire avec la France se termine ce matin. Ils repartent en Chine, 13 ans après leur arrivée dans le zoo du Loir-et-Cher. Ils ont pris la route vers 6h ce matin à bord d'un camion à leur effigie, sous escorte policière quand même. Direction Roissy, ils y décolleront à la mi-journée, c'est l'heure du départ. Donc, et Rodolphe Delors du zoo de Beauval est forcément ému ce matin.
Beaucoup d'émotions ce matin. Moi, je les ai vus arriver. Je suis même allé chercher en Chine, à Chengdu. Je crois qu'ils font partie de notre famille, la grande famille du zoo parc de Beauval. C'est une émotion partagée par toutes les équipes, mais plus particulièrement pour les soigneurs animaliers qui s'occupent des pandas, certains depuis 13 ans et qui étaient là ce matin. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est des animaux attendrissants, c'est des animaux qui fascinent. Ils ont leurs fans qui étaient là à 5h du matin pour voir le camion partir et puis pour s'envoyer pour la Chine.
Et c'est un événement diplomatique hein, puisque le ministre de la Transition écologique et l'ambassadeur de Chine vont assister à leur départ. Je précise que leurs jumelles nées en 2021 vont rester aux zoo de Beauval au moins pendant 2 ans.
Donc les deux petites, on garde les deux petites.
Voilà, et on espère même accueillir de nouveaux pandas venus de Chine.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h08. C'est l'heure de parler économie et épargne.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel,
à tous.
Les Français n'ont jamais autant boudé le livret A.
Effectivement, les épargnants ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A et livret de développement durable au mois d'octobre. Alors, c'est vrai que traditionnellement, les Français piochent dans leur livret au mois d'octobre, souvent pour régler les arriérés d'impôts, payer la taxe foncière, plus que malheureusement pour préparer Noël. Mais jamais, jamais on n'avait vu ce qu'on appelle de la décollecte à ce niveau-là. L'explication, c'est bien entendu la baisse du taux de rémunération de ces livrets réglementés. On était encore à 3% début 2025, et puis ça a été ramené à 2,4% en février, 1,7% au mois d'août, sachant que l'inflation se situe autour de 1%. Donc ça rapporte encore un peu, mais plus grand-chose.
Qu'est-ce qu'ils font de leur épargne? Les Français.
Alors, les fourmis ne se sont pas transformées en cigales. Leur taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé depuis les années 70 et, selon l'INSEE, jamais la préférence pour l'épargne au détriment de la consommation n'a été aussi élevée que cet automne. C'est, tous les mois, l'INSEE pose la question aux Français. Est-ce qu'en gros, vous pensez que c'est plutôt le moment d'épargner ou de dépenser ? Eh bien, jamais ils n'ont autant voulu. voulu épargner. Donc les fourmis arbitrent, notamment en faveur de l'assurance vie, qui a enregistré une collecte record, elle, au mois de septembre, puisque même les placements les moins risqués, ce qu'on appelle les placements en euros dans l'assurance vie, vont rapporter quand même 2,6% cette année, soit plus que le livret A malgré une fiscalité moins avantageuse. Les épargnants se ruent aussi sur l'or sous toutes ses formes, d'autant que les crypto-monnaies traversent une mauvaise passe, hein, c'est rien que de le dire, le Bitcoin a perdu 25% en 6 semaines.
Vous avez des trucs un peu intéressants à nous proposer, Emmanuel?
Le produit dont je voulais vous parler depuis longtemps, parce que c'est un vrai phénomène de société, c'est ce qu'on appelle les ETF ou les tracker. C'est quoi? C'est aujourd'hui le troisième véhicule d'investissement le plus détenu d'Europe. Il y a 2,6 millions de Français qui en possèdent un selon BlackRock. Alors, en gros, vous mettez la somme que vous voulez sur un placement qui va répliquer l'évolution du CAC 40, du Dow Jones ou de n'importe quel indice mondial. Depuis votre portable, vous investissez via les plateformes de banque en ligne ou votre banque normale, d'ailleurs, dans des centaines d'entreprises en une seconde, en un clic. Il y a très peu de frais. Vous êtes pas, vous avez pas besoin d'être spécialiste. Ça fait des bonnes performances à long terme. Donc, c'est le placement le plus moderne aujourd'hui, qui connaît la plus forte croissance. Donc c'est un placement qu'il faut connaître. Voilà.
Les conseils d'Emmanuel Le Chypre. Merci Emmanuel. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
À suivre sur RMC, il y a Arnaud Demange qui arrive pour nous rejoindre. Et puis je vous redonne l'invité du face-à-face ce matin à 8h30. Ce sera le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Et puis après le face-à-face, face à Canteloup, c'est à 8h50 comme tous les matins sur RMC. À tout de suite, 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud Demange qui rentre dans ce studio de RMC.
Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce mardi. Alors même si ça part pas sur une bonne nouvelle. On a perdu Jimmy Cliff qui est décédé. Bon, après, en même temps, comme me disait Laurent Nunez, ça fait un narcotrafiquant en moins.
Oh,
ouais. Oh. Consommation personnelle. Quand il se faisait choper par les douaniers avec 100 kilos dans le coffre. Après, il faut ça pour faire du bon reggae, Manu. À propos de narcotrafiquant, ouf! Il est rentré, le détenu super dangereux de la super prison de haute sécurité qui est allé passer un entretien d'embauche hier à 600 km de chez lui. Il a fait une demi-journée dehors. Vous allez voir qu'il va nous sortir un bouquin pour Noël. Journal d'un prisonnier.
Voilà.
Sarko, il va faire « Eh oh, c'est mon livre de Noël !» Qui va embaucher un narcotrafiquant classé parmi les 100 plus dangereux? C'était quoi cet entretien? Bon, alors, donc, vous êtes sadique, vous aimez l'argent, vous n'avez pas peur de ruiner des familles, bienvenue au Trésor public. Vous êtes embauché, on est très contents.
Ah, très bon.
Allez, on change de sujet avec un sujet feel good, Apolline, la Troisième Guerre mondiale. Eh oui, moi cette année, les cadeaux de Noël, je les fais à la dernière minute, hein, ça peut péter. Emmanuel Macron réfléchit à un nouveau service militaire ouvert aux jeunes de plus de 18 ans, rémunéré 900 euros par mois. Voilà, 900 balles pour aller crapahuter dans la gadoue en janvier, dans les forêts des Vosges, en se faisant engueuler. Le rêve de tout adolescent. Moi, j'en connais des ados. Hein. Si on les met dans ces conditions, effectivement, on va devoir accepter de perdre nos enfants, comme le disait le général Mandon, le chef d'état-major des armées. Vous savez qu'au bureau, en ce moment, on a des stagiaires de seconde. Dans 4 ans, c'est eux qui devront se battre pour nous. Prenez des cours de russe, les amis. Ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'on est prêts à perdre nos enfants? Xavier Dupont de Ligonnès, il a dit oui, mais nous, est-ce qu'on est prêts? 900 euros pour se faire humilier et crier dessus, je trouve que c'est quand même pas ouf, quoi. En même temps, à Bétarame, c'est le prix que les parents payaient pour qu'on fasse ça à leurs gamins. Peut-être équilibré comme budget. Alors, vous avez entendu, Louis Sarkozy proposait hier une loterie pour envoyer...
Chez nous,
à notre antenne, Voix de droite, il proposait hier une loterie pour envoyer des petits délinquants à l'armée pour en faire des Français.
Et bravo Yanis, tu as gagné un séjour à l'armée.
Et je me disais en l'écoutant, est-ce vraiment une bonne idée de prendre des jeunes narcotrafiquants, de les former au maniement des armes, à la guérilla urbaine et à se passer de sommeil? Ça pourrait mal tourner.
Qui aurait pu prédire?
Et oui, j'en parle à Louis, on va faire un dîner débat.
Deux pandas, Arnaud, deux pandas du zoo de Beauval, repartent donc tout à l'heure pour la Chine.
Petit panda de Chine,
panda. Gadigadigada. Je ne sais plus, c'est Chantal. Il y a toute ma jeunesse. Une jeunesse de merde. Les Chinois nous envoient des poupées sexuelles de chez Chine. Nous, on leur envoie des pandas mignons.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
On s'est fait avoir. En plus, c'est même pas des pandas sexuels.
Oh,
bon,
non,
après,
non.
Si on veut des pandas sexuels, c'est facile à faire. Je vous donne le tuto. Une grosse peluche, une perceuse et
mais
le tour est joué. C'est
non.
Mon tuto bricolage de Noël. Donc, Yuan Yuan et Yuan Zi, le couple de pandas, ont passé 10 ans en France. Ils ont fait 10 ans de présidence Macron. Les pauvres, ils ont bien mérité leur retraite. Donc, ils repartent finir leur jour en Chine dans un menu B12, exactement. Non, un centre d'élevage. On va pas les manger, quand même. C'est une technique diplomatique de Chine, ça. Oui. Vous savez, hein, si la Chine veut améliorer ses relations avec un pays, elle offre un panda. Ça s'appelle la diplomatie du panda. Si la Chine veut marquer son désaccord avec un pays, elle lui offre un missile dans la gueule. Ça s'appelle la diplomatie du missile dans la gueule. Ce sont les mille nuances de la subtile diplomatie chinoise, Pauline.
Bien sûr.
Donc la Chine nous prête des pandas. En échange, on dit rien pour les Tibétains et les Ouïghours. C'est comme ça que ça marche. Tibétains et Ouïghours avec qui la Chine pratique la diplomatie du pendu. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord. Alors, vous savez que contrairement à Afida Turner, la femelle panda n'est en chaleur que 48 heures par an. Ce qui complique... l'accouplement, les pandas n'ont pas une très forte libido, c'est très compliqué d'avoir des petits pandas, c'est très difficile de faire s'accoupler des pandas. Alors j'ai une théorie qui est asiatique aussi, je pense que c'est à cause des cycles de réincarnation.
Ah.
Je ne sais pas si vous savez, mais
c'est
il paraît
que... comme théorie,
dans, alors, dans la réincarnation, quand on a été très méchant, on se réincarne dans quelque chose d'inoffensif. Genre une poignée de bigorneaux, c'est une ancienne division SS.
Oh.
Donc, un panda, c'est très inoffensif.
D'accord.
Je sais, ça se trouve, les deux pandas, là, c'était Émile Louis et Hitler.
Oh.
Et Hitler, il a pas du tout envie de se faire cartoucher par Émile Louis qui lui dit « Allez, viens voir Papinou !»« Nein ! Nein ! Heinrich ! Hilfe !» Et c'est pour ça que les pandas ne se reproduisent pas. C'est ma belle théorie asiatique. Vous ne verrez plus les pandas, de la même façon.
C'est complètement tendu, en
bon
devant.
On arrive en novembre, à fin novembre. Je suis éclaté, moi. Je cherche des trucs rigolos. Je fouille dans tous les recoins.
Alors,
allez, à demain.
Dimanche, mesdames, messieurs, tous les matins, à 7h20 et 8h20. Il est 8h19. Il y a Anthony qui nous appelle du Gard et qui est infirmier. Bonjour, Anthony.
Oui, bonjour.
Anthony, vous vouliez réagir à ce chiffre record du nombre de morts au travail, les accidents de travail. Vous-même, vous êtes infirmier et vous êtes même formé, spécialisé sur les questions de conditions du travail.
Exactement, parce que du coup, je suis donc sur le CHU de Nîmes, je suis représentant du personnel de la CGT et l'UF3SCT, qui est la commission d'hygiène, conditions et sécurité de travail.
Vous avez entendu tout à l'heure mon invitée, dont le mari est mort au travail, et elle disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'inspecteurs sur ces questions-là, que
ce
n'était pas suffisamment formé. C'est votre constat ?
Ben, c'est le constat, et malheureusement, c'est aussi un résultat politique. On voit aujourd'hui que les instances comme les conditions de sécurité de travail sont de moins en moins écoutées. La politique dans les entreprises, c'est de faire plus d'activités avec moins de personnel. Donc, du coup, c'est au détriment des salariés et des conditions de travail. On le voit, les syndicats, on voit souvent les syndicats, en fait, comme des emmerdeurs. Hein. Mais en fait, nous, on est les garants des conditions de travail aussi. Et moins il y a de contre-pouvoir, plus il y a d'abus de la part du patronat.
Et vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils fassent cette formation, il faut qu'ils puissent justement être aux avant-postes de leur entreprise.
Ben oui, exactement. Il faut se former. Les salariés ont des jours de formation, hein, qui sont sur leur temps de travail pour se former à ce genre d'informations. Et on voit très bien que ils n'en profitent pas parce que tout ça c'est caché en fait. Mmh. Je suis pas du tout complotiste. Je veux pas faire de la récupération politique.
Mais disons que c'est pas suffisamment mis en valeur, mis en avant. Bah vous savez quoi, Anthony ? Vous aurez justement permis de changer ça ce matin, puisque avec votre témoignage, vous le dites ce matin, il faut se former, il faut être plus attentif aux conditions de sécurité dans son entreprise. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir témoigné, infirmier dans le Gard. Dans un instant, dans le face-à-face, mon invité, c'est Vincent Jeanbrun. Vous vous souvenez de Vincent Jeanbrun, le maire de La Haye-les-Roses, dont le domicile avait été... visé par les émeutes des banlieues après la mort de Naël. Il est depuis ministre de la ville et du logement. Il veut notamment la fin des HLM à vie. Vincent Jeanbrun est mon invité dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de la Ville et du Logement. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de s'habituer au nouveau gouvernement que Vincent Jeanbrun, la première fois que je vous avais reçu ici même, c'est lorsque vous étiez maire de la Île-et-Rose et que, au moment des émeutes après la mort de Naël, votre domicile avait été pris pour cible par des émeutiers. Un incendie avait même commencé. Votre femme avait dû tenter de s'enfuir. C'est comme ça qu'on a, à ce moment-là, j'allais dire, découvert votre visage, votre engagement. Aujourd'hui, vous êtes donc ministre de la Ville et du Logement. J'ai de nombreuses questions à vous poser, et notamment sur cet hébergement d'urgence que vous nous annoncez ce matin pour les femmes victimes de violences conjugales. Dites-nous de quoi il s'agit.
Absolument, merci de me recevoir. Effectivement, on est aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, à cette occasion, avec ma collègue Aurore Berger, qui est dans le gouvernement, est en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous allons co-signer une circulaire qui permet de dire à tous les préfets maintenant comment on améliore la situation encore. Pour dire les choses simplement, ça repose sur un triptyque simple. Protéger, reloger, reconstruire. Protéger en faisant en sorte que les femmes aient tout de suite une solution pour sortir.
Tout de suite, tout est dans le tout de suite
parce que on vient de connaître une semaine noire. 5 femmes ont été victimes de féminicides rien que la semaine dernière. 5 femmes. Et donc il y a une urgence absolue. La priorité, c'est de faire en sorte que
les
femmes sortent de logements qui, malheureusement, bien souvent, ces logements sont devenus des prisons. Or moi, je veux que demain le logement devienne le refuge. On sort de la prison dans laquelle ont lieu les violences. Très très vite, il y a un hébergement d'urgence et puis le processus de reconstruction dans un nouveau logement. On reloge pour pouvoir reconstruire sa vie avec sa famille.
Ça sera quand?
La circulaire, elle part aujourd'hui. Ça veut dire que elle s'inspire d'ailleurs de bonnes pratiques qui avaient déjà été mises en place à certains endroits. Là, tout ça va devenir automatique. Et donc, nous allons construire quelque chose qui soit une réponse la plus réactive possible. C'est ça l'objectif. Et plus largement...
Est-ce que ça pourrait être même proposé, j'allais dire, spontanément? On sait que d'abord, l'étape la plus difficile, c'est d'avoir parfois la force d'aller porter plainte, d'être entendu. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, dans la main tendue, il puisse y avoir l'évocation de cette possibilité-là? Parce qu'elles ne le savent pas toujours. Il y a quand même une forme de solitude.
Il faut le dire, et si des femmes nous entendent aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de cet hébergement d'urgence, même si vous n'avez pas encore porté plainte.
Même si vous n'avez pas porté plainte.
C'est ce qui est dit dans la circulaire. L'idée, c'est que, évidemment, il y a un contact avec les services spécialisés, comme le 115 par exemple, et tout de suite, vous êtes pris en charge. Ensuite vient le temps de la plainte, ensuite vient le temps des procédures. Mais l'idée, c'est qu'on puisse mettre la femme, les enfants en sécurité le plus vite possible. C'est ça qui est rappelé aujourd'hui. Et plus largement, ma collègue Aurore Berger travaille à ce qu'elle appelle une grande loi cadre, transpartisane, pour aller encore plus loin dans le droit des femmes.
On le sent bien, au fond, avec votre dossier, Vincent Jeanbrun, la ville... Le logement, vous êtes à la croisée de très nombreuses problématiques en France, qui sont des questions sociales, qui sont des questions de violence, qui sont des questions de territoire. L'une de vos premières, idées, c'était de mettre fin au HLM à vie. Est-ce que ça va se traduire par quelque chose de concret ou vous avez juste lancé l'idée ?
D'abord, on est dans une phase où la politique, c'est du débat et créer des consensus autour des idées.
Ouais, il n'y a pas encore grand-chose qui s'en dégage.
L'époque où les ministres annonçaient en disant c'est comme ça et dans 10 jours ça va être mis en place, elle est un petit peu révolue puisqu'aujourd'hui c'est une période beaucoup plus parlementariste où on travaille avec les parlementaires, les députés. Moi j'ai toujours aimé le consensus et le dialogue, donc frustrant non. Surtout quand on a en face de soi des parlementaires qui jouent le jeu. Et on a, malgré l'image terrible que peut donner parfois l'Assemblée, parce que vous avez des deux côtés, deux extrêmes qui jouent le chaos, vous avez à l'intérieur aussi plein de gens raisonnables avec qui on arrive à travailler sur des sujets de fond.
Est-ce que vous diriez le mot cynisme logement. C'est le mot utilisé hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui dit qu'il y a aujourd'hui au Parlement le cynisme de certains partis.
Ça va, c'est le cynisme, je reprends le mot sans difficulté, mais ça va même au-delà. En fait, c'est une hypocrisie terrible parce que vous avez ceux, la LFI, qui prétendent être aux côtés des plus modestes, des plus fragiles, et qui ne votent jamais quand ils ont la possibilité de le faire, uniquement pour des questions politiciennes, pour en gros tailler des croupières au PS. Et vous avez de l'autre côté le Rassemblement National qui essaye de faire croire aux Français qu'il les protège, alors qu'en réalité, il s'allie et vote avec les LFI très souvent pour un certain nombre de mesures complètement folles, que ce soit des impôts délirants, que ce soit des mesures qui
et au milieu, vont taper le pouvoir d'achat. Au milieu, il y a votre famille politique, les LR. Vous avez sans doute lu les mots de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui dit à propos de ce budget qu'il s'agit d'un hold-up fiscal, social, démocratique, et qui laisse entendre qu'aujourd'hui, il lui paraît impossible de le voter.
Je considère que ce qu'on vit est nouveau. On a effectivement une nouvelle période. On ne savait pas faire ça avant en France parce que soit il y avait une majorité très claire, soit elle était un peu plus relative, mais hop, 49-3 et les choses avançaient. C'est pas le choix qu'a fait le Premier ministre parce qu'il a choisi, Sébastien Lecornu, de faire confiance aux parlementaires, de faire confiance à la démocratie. On a une occasion de montrer que la démocratie, ça fonctionne et qu'on peut trouver des compromis. Et c'est ça dont il faut se saisir. Et d'ailleurs, je sais que c'est très confus vu de l'extérieur, mais il y a déjà un certain nombre de sujets sur lesquels il y a eu des accords. Il y a déjà eu des compromis.
Est-ce que sur vos dossiers à vous, Vincent Jeanbrun, vous avez l'impression que
c'est un très bon exemple sur la question du logement, de faire un grand plan de relance du logement. Eh bien, il y avait une copie du gouvernement qui a servi de base de dialogue. Et puis, on a été discuté avec le groupe de la droite républicaine qui est très à l'écoute sur les sujets de la crise du logement, mais également avec le groupe écologiste, également avec le groupe communiste, également avec le groupe socialiste, parce qu'au fond, ceux qui font l'effort d'aller écouter les élus locaux, les maires de toutes ces étiquettes, eux nous disent, moi sur le terrain, la crise du logement, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de comment on fait en sorte qu'il y ait des logements pour que les Français se logent correctement.
Vous y croyez
et
à
donc,
ce budget?
On avance. Mais je peux vous dire en tout cas que sur mes thématiques, et sous le contrôle de la ministre du budget qui a géré ce dialogue dans l'hémicycle, on a réussi à avoir un amendement qui était beaucoup plus dépensier que ce qu'aurait aimé Bercy, qui était peut-être un peu moins généreux vis-à-vis des investisseurs particuliers que ce qu'aurait aimé une partie de la droite de l'hémicycle, mais qui était beaucoup plus social, etc.
C'est vrai que chacun a fait un chemin.
Un équilibre. Tout le monde a fait un chemin. C'est donc possible.
Enfin, ça ne passera que si à la fin, ce budget est adopté.
Tout à fait, merci de le rappeler. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui dépendent de l'adoption d'un budget. C'est vrai pour relancer le logement en France, c'est vrai pour la loi de programmation militaire, on en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai pour sauver nos agriculteurs qui ont besoin, et Annie Genevard se bat pour apporter un certain nombre de dispositifs dans ce budget. Effectivement, si le budget tombe, ça ne marche pas. C'est très important parce que j'ai lu que certains parlementaires, nous disent « crise démocratique », vous citiez Bruno Retailleau, c'est quand même incroyable. Quand on donne la main, on donne les rênes au Parlement, on nous explique que ce serait pas de la démocratie. C'est assez étonnant. Et puis ensuite, j'hallucine quand je vois certains responsables politiques qui nous disent « c'est pas de budget, il y aura une loi spéciale, tout ira bien, c'est extraordinaire ». Mais attendez, faut que les Français se rendent compte. La loi spéciale, déjà, ça n'existe pas sur le budget de la Sécurité sociale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vote du budget, de la partie sociale, là, le PLFSS, pardon pour le sigle, il n'y a pas de budget pour la Sécu. Donc, c'est pas bon. Je veux juste vous le dire simplement, c'est pas bon. Et sur le budget, il peut y avoir une loi spéciale. Cette loi spéciale, ça veut dire globalement, il n'y a plus d'économie, parce que c'est les mêmes qui vous disent, il faut faire plus d'économie. Loi spéciale, il n'y a pas d'économie, ça coûte très cher. Il n'y a plus du tout d'investissement, il n'y a plus d'innovation, et il n'y a plus de pluriannuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir sur plusieurs années. Ce qui est terrible en matière de rénovation urbaine,
mais
le sujet que je porte, c'est terrible.
Ce dont vous parlez, Vincent Jeanbrun, c'est donc, notamment votre ancienne, ou je ne sais plus si vous êtes encore dedans, pas dedans, enfin, elle est.
Je suis suspendu, mais.
Vous êtes suspendu.
C'est pas le
ça
sujet.
Ça veut dire que vous n'êtes pas éjecté, non. Vous pourriez revenir, mais en tout cas, pendant un moment, vous n'y êtes plus.
Je vais vous dire simplement, je suis à la tâche, je suis au travail. Et j'ai pas perdu les valeurs qui sont
mais
les miennes.
Mais est-ce que vous me reconnaissez encore dans le parti LR?
Écoutez, on va voir quelle ligne défend le parti LR aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire en sorte que la crise du logement, on en sorte dans ce pays. Que toutes les personnes qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, on est au début de la trêve hivernale.
Il y a des gens qui peuvent mourir de froid. Mais vous étiez porte-parole porte-parole d'LR. Ça
du
fait
groupe,
pas.
J'étais porte-parole du groupe à l'Assemblée
groupe
nationale.
À l'Assemblée.
Et vous aurez noté que le groupe à l'Assemblée nationale travaille, trouve des consensus, tout en ayant une ligne très claire.
Vous êtes en train de me dire qu'il y a une distinction entre le groupe de Laurent Wauquiez et la direction Bruno Retailleau, quoi.
Que j'apprendrai qu'il y a des différences. Parce que nos parlementaires, ils sont au travail et ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour faire avancer le pays. Ils sont du côté de l'ordre et pas du chaos.
Est-ce qu'à un moment, il faut que ce soit plus clair, plus franc et qu'il y ait une vraie scission?
C'est pas à moi de commenter ces débats-là, mais en tout cas, il y a des débats au sein de la famille de la droite. C'est bien, c'est sain. Moi, aujourd'hui, je suis au gouvernement. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des débats et du dialogue à tous les niveaux.
Une question.
Il existe un chemin pour qu'on vote ce budget.
Il existe un chemin pour qu'on vote ce budget. Vous faites partie de... j'arrive jamais à savoir, quand j'ai écouté les mots du Premier ministre hier, qui disait à peu près la même chose que vous, qui disait qu'il y croyait encore, j'arrive pas à savoir si c'est de la méthode Coué, si c'est, si on le dit, ça va marcher, ou si c'est une manière d'essayer encore de justifier simplement les jours qui viennent.
On a un gouvernement de combat. On a un gouvernement qui aujourd'hui n'est pas là avec des ambitions.
Oui, tout se dit que vous étiez dans... J'ai jamais vu un gouvernement qui disait pas qu'il était au combat.
Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire que là, on n'est pas là pour des ambitions 27 ou je ne sais quoi. On est là pour essayer, chacun dans nos domaines, de faire avancer le sujet. Sur des sujets concrets, on a parlé de protéger les femmes victimes de violences tout à l'heure. Il y a une crise terrible du logement aujourd'hui en France. Les Français n'arrivent plus à se loger. Moi, j'ai la mission d'essayer de faire avancer les choses. Sans budget, on n'y arrivera pas. On pourra pas changer la donne. On a eu un débat sur le fait de protéger les Français des menaces extérieures. Sans budget, on ne financera pas notre défense. Voilà. Et ceux qui pensent qu'on peut jouer avec le feu ont tort. Donc on mettra chacun devant ses responsabilités. Il faut comprendre une chose, le budget qui est actuellement en débat n'est plus le budget du gouvernement. C'est un budget qui a été modifié, qui a été amendé, qui a été transformé. C'est donc le budget du Parlement.
Et c'est la vie, au fond, et c'est ce que vous dites. Vous dites c'est absurde de dire que c'est pas démocratique, puisque précisément, à vos yeux, ça l'est encore davantage. J'ai encore des questions sur les squats, sur les taxes foncières, mais puisque vous évoquiez le groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez propose une loi pour interdire le voile à toute personne mineure. Vous seriez encore député, vous la voteriez?
J'ai pas vu le texte précisément. En tout cas, moi, je me souviens en tant que maire d'avoir été interpellé, déjà personnellement et par des citoyens.
Ancien maire de l'Île-et-Rose.
Ancien maire de l'Île-et-Rose. Parfois, de manière très exceptionnelle, des fillettes très, très, très petites. Très petites. Je dirais autour de 7 ans, l'âge de ma fille aujourd'hui, qui était, non pas avec simplement un voile sur la tête, mais qui était voilée de noir, de pied en cap, avec des gants noirs. Et c'était encore l'époque où il était normal d'avoir un masque Covid. Effectivement, c'est surprenant et ça interpelle. Maintenant, moi j'ai toujours considéré que le pays laïque dans lequel nous sommes doit poser la question de la présence de tous les signes religieux ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une distinction spécifique à une religion, selon moi. Mais c'est des débats que j'avais pu avoir, y compris avec
François Barman, sur le fait
que probablement la religion doit être ramener dans un espace peut-être plus personnel parfois, et donc ça veut dire qu'il y a des endroits, c'est vrai aujourd'hui de l'école, mais peut-être demain les services publics, on peut se poser une question à ce niveau-là. Le débat, en tout cas, il fait jamais de mal, il permet d'avancer sur ces sujets.
Mais vous ne vous prononcez pas aujourd'hui pour l'interdiction du voile aux moins de 18 ans? C'est ça la question que pose Laurent Wauquiez, elle est très précise, hein, il dit interdiction, voire même punition des parents si leur enfant est voilé.
Le sujet, c'est de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc comment on protège ce pilier de notre République, et tout ce qui va dans le sens de protéger nos jeunes filles ira dans le bon sens. Maintenant, il faut que ce soit efficace et que ce soit quelque
chose
qu'on peut.
Mais si c'est constitutionnel, si c'est possible, vous diriez oui.
Je fais pas de politique fiction.
Mais vous y seriez favorable à cette interdiction.
Aujourd'hui, des fillettes voilées de pied en cap et gantées de noir, moi, ça me pose un sujet, et l'interpellation de Laurent Wauquiez, elle pose cette question-là. Donc, que le débat puisse avoir lieu à l'Assemblée, c'est toujours une bonne chose.
Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, la taxe foncière, 7,4 millions de foyers vont voir leurs factures alourdies sur des critères qui sont notamment le fait d'avoir tout simplement accès à une salle de bain ou à des WC. Est-ce que franchement, c'est pas le truc de trop?
Moi, j'étais surpris en le voyant.
Vous-même surpris, vous-même ministre du Logement, avouez que c'est déliant.
On voit que Bercy, là-dessus, a voulu avancer sur une réforme qui est annoncée depuis des années, hein, voir comment on met à jour aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs locatives, en l'occurrence. Maintenant, effectivement, là, au moment où on est sur le budget, c'était pas le moment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une volonté du gouvernement de pouvoir suspendre l'application de cette mesure. Parce qu'encore une fois, c'est en plus les mots choisis.
Donc vous allez y arriver.
Les mots choisis étaient très particuliers. Voilà,
Le confort. Mais surtout, est-ce que ces critères-là, qui sont des critères qui datent des années 60, doivent encore être ceux sur lesquels on décide de ce qu'on paye comme taxe foncière ou pas?
Probablement que la vraie réforme, elle nécessiterait d'être vraiment dans une nouvelle logique, de nouveaux paradigmes. Et là, on n'est pas dans le moment pour le faire, objectivement.
Donc vous, en vrai, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous ne pouvez rien faire.
C'est-à-dire?
Vous n'allez pas pouvoir la suspendre, cette augmentation.
C'est pas ce que je vous dis, non. Je sais qu'il y a la volonté du gouvernement pour le faire. C'est pas à moi de l'annoncer, mais...
Mais vous pensez pouvoir, à un moment ou à un autre, suspendre avant... C'est septembre, hein. Ouais. Le moment où les Français, où c'est 7,4 millions de foyers supplémentaires vont devoir le payer, c'est septembre. D'ici septembre, vous avez le souhait de la suspendre.
Il y a la volonté du gouvernement de pouvoir suspendre cette mise en application pour remettre tout ça à plat. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de réforme encore une fois, la valeur locative sur laquelle est calculée la taxe foncière. Il y a un moment donné, il va falloir moderniser tout ça. Je vous le dis pour une raison simple. Moi, je l'ai vu, je suis passé d'un petit appartement à La Haye-les-Roses à une maison. Et le jour où on est passé de l'un à l'autre, la taxe foncière a baissé parce que la maison était plus ancienne que l'appartement. Donc vous avez un petit appartement, vous payez plus de taxes foncières que la maison. On voit bien qu'il y a nécessité de repenser les choses. Pour autant, on n'annonce pas ça comme ça sur des critères que personne ne comprend.
Mais vous espérez donc pouvoir le suspendre. Vincent Jeanbrun, la marche blanche à la mémoire du frère d'Amine Kessassi, samedi, vous y étiez pas. Alors je comprends, votre avion a pas décollé, mais pourquoi vous avez pas sauté dans un train? Vous êtes le maire de la ville, le maire du logement. Comment c'est possible?
Écoutez, c'était particulièrement douloureux. J'avais envie d'être aux côtés d'Amine, de sa maman, de sa famille. J'étais avec la porte-parole du gouvernement, on était avec deux anciens premiers ministres, Dominique de Villepin et Gabriel Attal. Et effectivement, on est resté coincé sur un tarmac à Roissy. C'est ridicule tellement c'est parce qu'il n'y avait pas le dégivrage d'abord, puis ensuite le personnel qui
donc
avait changé.
Donc vous étiez déjà dans l'avion quand
on
ça a été arrêté.
On était dans l'avion.
D'accord.
Et donc je pouvais
parce
pas
sinon, j'avoue que je me disais, je comprends pas très bien pourquoi vous n'avez pas juste détourné votre route pour aller à la gare. Quoi.
On est bien d'accord. Donc j'étais dans l'avion, on a passé plus d'une heure et quart je crois dans l'avion. Ensuite on est descendu de l'avion, on a essayé de voir s'il y avait pas un autre vol à Roissy, à Orly pardon. Enfin bref, je peux vous assurer qu'on a mis tout en œuvre.
Vous les avez eu au téléphone ?
J'ai évidemment appelé Amine, un garçon d'un extrême courage, vous l'avez vu, vous l'avez reçu sur ce plateau dans une émission qui d'ailleurs était pleine d'émotions mais qui au regard de tout ce qu'on avait pu vivre avec ma famille, on était particulièrement touchés par le courage de ce garçon, de sa maman aussi qui est extrêmement courageuse. Et typiquement le genre de famille exemplaire qu'on a envie de défendre. Et aujourd'hui, si je suis heureux d'être ministre de la ville, en fait, de tous les quartiers politiques de la ville, tous les quartiers prioritaires, c'est aussi pour aller soutenir et aider des garçons comme Amine.
Il demande plus de services publics. Il dit que c'est aussi vraiment des efforts sur l'éducation qu'il faut faire sur les jeunes. Est-ce que vous allez vous rendre sur place? Est-ce que vous allez les rencontrer?
Oui, on va évidemment aller sur place. J'accompagnerai le président de la République qui ira à Marseille très
mi-décembre.
Prochainement. J'avais prévu de m'y rendre juste avant justement l'assassinat du frère d'Amine. On devait y aller avec le ministre de l'Intérieur. Finalement, on a dû décaler nos plans. Mais je suis chargé dans mon portefeuille ministériel de Marseille en grand. Et donc, à ce titre, j'irai évidemment aussi souvent que nécessaire. Et je partage ce qu'a dit Amine sur le fait qu'il y a évidemment une absolue nécessité de rétablir une sécurité. C'est-à-dire une forme de répression de la criminalité. C'est une évidence, c'est la première étape. Mais derrière, il faut évidemment aller ensuite nourrir la prévention. Et la meilleure des préventions, c'est la culture. Vous savez, hier, j'étais en Seine-et-Marne chez Jean-François Copé à Meaux. Et on a regardé l'avant-première d'un film sur les
rixes. Dites-vous. Mais pardon, ils étaient représentants de la culture à Marseille?
Il a prouvé Jean-François Copé à Meaux.
Ils étaient où, les rappeurs, les chanteurs? Ils étaient où, le sport? Ils étaient où?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. En l'occurrence, il faut qu'on remette la... Mais vous savez, c'est pas le show business qu'il faut remettre au cœur des cités.
Mais à un moment, il y a peut-être aussi une question de modèle, d'exemple, non?
Je suis bien d'accord. D'ailleurs, vous voyez, au JO, c'est quasiment que des jeunes athlètes qui sortent de nos quartiers prioritaires qui sont là. Donc c'est dire s'il y a des talents dans ces quartiers prioritaires. Mais je veux revenir d'un mot, si vous me permettez, sur ce que j'ai vu hier soir. J'ai vu des jeunes qui avaient participé à des rixes, à de la violence à Meaux. Et parce que, justement, la municipalité a mis en place des services publics sur la culture, sur le sport, de l'accompagnement.
Et pour vous, c'est une manière de les sortir.
Ils sont devenus non seulement des grands frères qui aujourd'hui font des films pour dire plus jamais ça.
Merci Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité, rebonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement. Et tiens, il y a Jean-Louis Borloo aussi qui voulait réagir. Bonjour, monsieur Borloo.
Oui, bonjour. Ben, Vincent Jeanbrun, on le connaît, c'est le Bradley Cooper du Val-de-Marne. Hein, c'est le tout biffré du 9-4. Quand on a l'œil, on voit, on est les mêmes. Oui. Non, mais attends, Apolline.
C'est pas ce que j'aurais dit spontanément.
Si t'enlèves le physique, l'âge, la barbe, la carrure, les deltoïdes, les pectoraux, on est pareil.
Ah oui.
C'est mon sosie. C'est, on dirait Thibaut Texer qui a fait de la chirurgie esthétique. Voilà. Thibaut. Parce que tous les deux, avec Vincent, on a la passion de la ville, tu vois. T'étais allé déjà dans sa ville, Aléréos.
Oui, enfin, oui.
Le niveau d'équipement de sa ville.
Ah oui.
Niveau d'équipement, t'as des rues.
Ah oui, c'est vrai.
T'as des ronds-points, des trottoirs, des caniveaux. Des caniveaux magnifiques. J'en ai connu des caniveaux. Merdez comme ça, jamais. Bon. Il manque juste un aéroport avec du dégivrage, voilà, mais à part ça, il y a tout ce qu'il
faut. En tous les cas, c'est un jeune ministre qui a eu donc une ascension très rapide, hein, monsieur Jeanbrun.
Mais oui, mais c'est mérité. Parce que Vincent Jeanbrun, tu vois, on le sent dans son regard, c'est un gars généreux. En 2023, tu sais ce qu'il fait, le gars? Il a invité des jeunes des quartiers chez lui.
Ah oui.
Il leur a dit, venez à la maison, les gars. Puis n'hésitez pas, si vous voulez, défoncer mon portail avec votre bagnole. Ça peut m'aider à devenir ministre du logement. Eh bien, ça a marché.
Il n'est pas d'accord, Vincent Jeanbrun. Je le vois, il n'est pas d'accord.
Mais attends, mais demain, il se fait défoncer le portail du ministère du Logement. Il file à Matignon.
Ah oui.
Allez.
Ah, merci Jean-Louis Borloo, en tout cas. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour Apolline. Ici le sosie de Vincent Jeanbrun. Le seul journaliste dont la voix fait plus peur que les déclarations du général Mandon. C'est parti pour les titres. Les deux pandas, Wanwan et Wanzi, font leurs adieux à la France après 13 ans passés aux eaux de Beauval. C'est la première fois qu'un produit de fabrication chinoise tient aussi longtemps. Emmanuel Macron souhaite réagir.
Oui, merci cher Thibaut Texer, bonsour Vincent Jeanbrun. Je souhaitais m'adresser à nos amis chinois.
Oui.
Puisque vous souhaitez récupérer de grands animaux avec des poils noirs et blancs qui n'en foutent pas une, si en plus de Beauval vous pouviez faire un détour par le Havre pour me débarrasser de mon Édouard Philippe.
Oui, bien sûr. Merci pour cette intervention, monsieur le président. À vous, Thibault.
Oui, lors de l'incinération de la légende du reggae Jimmy Cliff, de nombreux rires ont été entendus dans l'assistance, mais pour une fois, ce n'était pas la faute du protoxyde d'azote. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, Laurent Nunez et Gérald Darmanin veulent interdire au Tour de France de passer par Marseille.
Et justement, nous sommes en ligne avec Sébastien Delogu, candidat LFI à la mairie de Marseille, qui souhaitait réagir.
Des aides représentent poum poum. Écoutez, nous, la France Insoumise, nous avons une solution radicale pour en finir avec le narcotrafic. Il suffit de ne plus parler de trafic de drogue et d'appeler ça réseau de soins phytothérapiques de proximité.
Ah mais quoi. Oui, mais quelle bonne idée, voilà. Monsieur Delogu.
Ça règle le problème. Tout de suite, ça fait moins peur, on se sent plus en sécurité. Je voulais préciser que cette idée brillante, nous la devons à notre collègue Louis Boyard, député. C'est notre spécialiste à France Insoumise, puisqu'il a fait des études. Il a fait maths stup. Spéciale dédicace à Jean-Luc Mélenchon. Poum poum.
Poum poum des aides. Merci Sébastien Delogu. Éric Zemmour, vous vouliez aussi réagir à ces propositions.
Écoutez, je crois qu'il est urgent, franchement, d'arrêter avec cet angélisme, hein, et de retrouver notre souveraineté. Faut faire sortir la France, j'en parlais, sortir la France de l'Europe, rouvrir les bailles acadiennes, hein, interdire les insoumis, et puis surtout, rattacher Marseille à l'Afrique.
Ah, merci, Éric Zemmour, pour cette proposition. L'affaire fait grand bruit, l'un des 100 détenus les plus dangereux de France a obtenu une permission de sortie. Oui, Nicolas Sarkozy, oui.
Non, mais attendez, Mme Malherbe, un des plus dangereux de France, faut quand même pas exagérer, surtout qu'en plus, tout le monde sait que je suis innocent.
Non, mais enfin, je ne parlais pas de vous, monsieur Sarkozy. Il s'agit d'un grand trafiquant de drogue incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil.
Une prison de haute sécurité. Et il a pu sortir. Mais c'est qui dirige cette prison? C'est le gars qui est responsable de la sécurité du Louvre, c'est ça?
Bon, bah écoutez, monsieur Sarkozy, on va plutôt parler de votre livre, votre livre événement. Le journal d'un prisonnier, c'est pas un peu pompeux quand même comme titre, vous êtes resté 20 jours?
Non, mais je suis d'accord, Mme Malherbe. D'ailleurs, c'était pas mon premier choix, parce que moi, je voulais appeler ce bouquin La vache et le prisonnier.
La vache et le prisonnier? Non, mais attendez, ça existe déjà, c'est un titre de film. Puis bon, il n'y a pas de vache en prison.
Enfin, la juge, pardon, mais c'était quand même une peau de vache.
Ah oui, ah,
on est d'accord.
Vu comme ça.
J'avais pensé aussi à 50 nuances de grec.
Ah oui.
Hein, c'est pourquoi? Rapport au yaourt grec, parce que j'ai à peu près bouffé tous les parfums. D'ailleurs, j'en profite que je serai bientôt en dédicace à Neuilly, au Monoprix. Aux produits frais.
Aux produits frais. Merci, monsieur Sarkozy. Le gouvernement va envoyer aux Français un guide de survie en cas de crise grave. Il est recommandé de stocker un pack d'eau, des piles, des conserves, des médicaments. François Ruffin.
Apolline de Malherbe. Oui. Je le dis. Oui. Face à Vincent Jeanbrun. Je dis, ça suffit. Il le sait dans les villes. Il le sait dans les logements. Les Français, la majorité française s'en sortent même pas en travaillant pourtant 35 heures par jour. Les Français, ils seraient bien contents s'ils pouvaient s'offrir un kit de survie avec 3 bouteilles d'eau, 2 boîtes de thon, une pile et un réchaud à gaz. Hein. Mais ils ne peuvent pas, les Français, ils doivent attendre qu'il pleuve pour pouvoir boire dans des flaques d'eau. Ils doivent attendre une prochaine lettre de relance de leur facture à payer d'EDF pour pouvoir avoir enfin du papier et pouvoir allumer un feu. Et pour s'éclairer, ils sont obligés de faire des bougies avec du cérumen. Mais si, aujourd'hui, c'est ça, il le sait, Vincent Jeanbrun. C'est ça, la vie des Français. Alors je dis, ça suffit.
Vous avez quand même tendance à exagérer, monsieur Ruffin. C'est quoi votre solution à vous, tiens?
Mais il n'y a pas de solution. La seule solution pour les Français, pour vivre enfin dans des conditions confortables, c'est de s'inscrire à Koh-Lanta.
Vous verrez pas à Koh-Lanta. Merci beaucoup Nicolas Cantelou, merci à Vincent Jeanbrun d'être resté avec nous. Face à Cantelou dès demain 8h50 et à tout moment en podcast.